9h dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les amis.
Salut Charline. Dis donc, c'est qui l'invité du jour là? Lambros Koulibaritzis.
C'est un philosophe grec.
Waouh, ouais. Philosophe grec, ouais. Oh, ça fait genre on a invité Aristote.
C'est ça, mais le mien est vivant.
Ah, donc il va pas venir en toge?
Non, mais là t'inventes des noms Charline, c'est pas possible. Bon, moi je vérifie dans Google.
Ah, peut-être qu'il sera en sandales.
Ah ouais.
Oh là là.
Lambros Koulibaritzis de l'Université libre de Bruxelles.
Voilà.
Ah, mais il est belge ton philosophe.
C'est sûr, il sera pas en toge.
Oui, il est grec et belge. Il a même vécu au Congo, si tu veux savoir.
Non, mais attends, intellectuel belge, pas du tout crédible.
Répète ça un petit peu.
Non,
là.
Mais votre plus grand intellectuel belge, c'est Jean-Claude Van Damme. Non, alors bon,
il est spécialiste d'Aristote. C'est un grand intellectuel qui publie un ouvrage, une somme sur la violence narrative. C'est 15 ans de recherche.
Non, ça va, te fâche pas, Charline. On savait que vous aviez des acteurs, des chanteurs, des humoristes.
Des serial killers, des pédophiles.
Voilà, des footballeurs. Mais
oui.
Des intellectuels, pardon, mais on ne savait pas.
On savait pas.
Et on se demande encore pourquoi le monde entier trouve les Français arrogants.
Attends, je viens de faire une recherche. Université libre de Bruxelles.
Ouais. Ah, vous avez une université aussi.
Mais attends, mais Charline, mais t'as pas été étudiante là-bas, toi?
Oh, Charline, elle a invité son prof.
Oh là là, ça va l'entre-soi, là?
Mais l'entre-soi, non, mais on est en philosophie, pas dans le showbiz. Enfin, quoi qu'en France, la frontière entre les deux, c'est pas clair.
Et au fait, t'avais eu combien l'examen de philo à l'époque chez Lambros Koulibaritzis, Charline?
10?
Oh,
oui, bon.
T'avais raté ton examen de philo.
Oh là là, mais t'es pas du tout crédible, là.
T'as pas intérêt à nous rater l'émission, hein?
Ah non.
L'émission, je sais pas, hein. Mais vous deux, je vais pas vous rater.
Elle est partie où, tu crois?
Elle est partie réviser. C'est un peu son examen de rattrapage aujourd'hui.
Bienvenue, la France Inter, bonjour. Juliette Arnaud 0, Guillaume Meurice 0.
Voilà. Oh,
voici la devise. N'oubliez pas de consommer 5 fruits et 5 planètes par jour. Voici le sommaire.
Sur le papier, tout le monde aime les sages-femmes, mais elles ont la sensation que dans la réalité, quand il s'agit de les considérer financièrement et statutairement, il n'y a plus personne. Alors aujourd'hui, rebelote, mobilisation nationale. Il paraît que sinon le gouvernement teste des nouvelles solutions.
Je vous ai dit, il n'y a pas de sages-femmes dans l'hôpital, vous avez droit au mécano, c'est comme ça. Hein, bon allez, on y va. Par contre, faut vous lever, madame, parce que moi, je travaille par en dessous, en fait.
Heureusement qu'il reste les Grecs pour acheter l'armement français. Paris s'est rapproché d'Athènes pour contrer la Turquie. Cette alliance s'étend du commerce des armes de guerre jusqu'à une exposition sur la Grèce au Louvre. Et Emmanuel Macron est, paraît-il, très admiré en Grèce.
Je suis pas un héros.
Mais si, t'en es un. Tout le monde en Grèce pense que tu es le plus grand événement depuis l'invention de la pita.
Ce soir, la France rencontre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Les Bleus et les Diables Rouges ne s'étaient plus croisés depuis cette funeste demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Les armées, les équipes se préparent car la revanche va bientôt sonner.
Prenez 30 000 hommes, le tiers de l'armée du Nord.
Mais il y a 10 chemins différents et quelle direction Blücher va-t-il choisir, sire? Vavre, Namur ou...
Ça suffit assez!
Mais toujours pas digéré Waterloo, voilà tout. Et à mes côtés, Juliette Arnaud.
Et en l'honneur de notre invité, une équipe de non-violents, avec d'abord celui qui est l'apôtre de la paix dans les campings. Son chant de concorde s'élève mélodieusement à l'heure de l'apéro. C'est la merguez. Merguez partie, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Bonjour Aimé Crémontin.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'organocatalyse asymétrique.
Mais c'est super.
Non, c'est pas vrai.
Ah, très bien.
Je sais même pas ce que c'est. Donc.
C'est le prix Nobel.
De chimie. Ouais. S'il était une chanson dans un portrait chinois, il serait évidemment In the Name of Love de U2,
oui.
Cet homme qui va et vient au nom de l'amour dans les rues de Paris.
C'est ça, c'est moi.
Sauf que bon, si on n'est pas tous d'accord sur la définition de l'amour, on sait que souvent ça craint. Voici donc Guillaume Meurice.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous parler de la passion française pour les intellectuels aujourd'hui. Je suis allé voir des gens qui sont fous, qui sont dingues fanzous des intellectuels français.
Les intellectuels en font, j'en ai rien à foutre.
Bon, pas tous. Pas tous.
Enfin, son fétiche a l'air parfaitement inoffensif. C'est le stylet, c'est-à-dire un genre de crayon. C'est normal, elle est écrivaine. Sauf que le stylet au Moyen-Âge, sa période de référence, c'est d'abord un petit poignard à lame triangulaire très fin qui sert à faire des blessures profondes. Écartez-vous. Voici Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Juliette.
Bonsoir Clara. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
D'une garçonne sulfureuse enfin rééditée.
Et voici celui qui va hisser l'actualité vers l'Olympe de la pensée complexe.
Oula.
Vous êtes, je vous laisse vous dire, vous êtes, dites-moi.
Lambros.
Oui.
Ah oui.
Koulibaritzis.
Ah, c'est pas facile,
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
par Jupiter.
Bienvenue Lambros Kouloubaritsis, vous êtes philosophe et historien des philosophies, vous êtes le spécialiste d'Aristote, de renommée internationale d'ailleurs, et vous publiez un ouvrage qui s'intitule « La violence narrative », sous titre « Enquête d'une réforme constructive des rapports humains ». Vaste programme donc, c'est paru aux éditions Ousia. On reproche souvent aux philosophes d'être déconnectés de la réalité, mais cette question de la violence, en général, vous l'avez touchée du doigt au Katanga, au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela vous taraude depuis ?
Mais, j'ai assisté à une guerre. Bon, et quand on assiste à une guerre à 19 ans, la mémoire, je crois, elle est définitivement déformée. Mm-hmm. C'est plus vif. Et surtout quand on voit des morts, le mort, c'est pas aussi impressionnant, c'est le blessé. Et je me suis occupé de quelques blessés, et là, j'ai découvert, en fait, je dirais, le caractère néfaste de la guerre. Mm-hmm. Et depuis, j'ai toujours un sentiment qu'on dépense beaucoup d'argent pour les armements et qu'on a trop de guerres sur notre planète. On fait semblant comme si c'était un phénomène naturel. Mmh. Et c'est comme ça, peu à peu, que j'ai commencé à travailler un peu la violence et la souffrance. J'ai écrit un livre sur la souffrance humaine. Mais là, c'est passé après mes études de philosophie ancienne. Donc j'écris d'abord beaucoup sur Aristote, bien sûr, mais sur l'ensemble de la philosophie ancienne. Surtout, j'ai publié un livre chez de Grasset de 1300 pages sur l'histoire de la philosophie ancienne et médiévale. Et c'est ce livre qui m'a fait finalement changer de cap. Et j'en avais assez de la philosophie ancienne. J'avais l'impression que j'avais mis toute mon âme dans un livre. Et à ce moment-là, j'ai dit, je change de cap. Et j'ai commencé à écrire sur la souffrance humaine, sur la complexité. Et la violence, c'est le dernier.
Voilà. Alors, la violence narrative, vous expliquez, elle précède toute violence. Donc, elle précède la violence psychique, dont on parle beaucoup, physique. La violence narrative, elle déclenche une souffrance morale dont on parle assez peu, finalement. Et comme cette violence narrative discursive, celle du discours, elle est à la racine de tous nos maux, là, alors pourquoi est-ce qu'elle est si peu étudiée ?
Mais c'est parce que les études, en général, sur la souffrance, analysent toujours la souffrance physique, corporelle. On croit que le discours est une métaphore. Tout ce qui est symbolique et métaphore. Quand je dis il y a une violence de la nature ou du vent, on dit que c'est des métaphores. Mm-hmm. La seule violence, c'est le corps. Mais on se trompe parce qu'en réalité, la violence corporelle, on précède par le discours, on accompagne par le discours et puis on raconte. Et donc ça veut dire qu'elle est englobée par le langage. Et donc la question que je me suis posée, c'est en regardant un peu l'histoire depuis les origines, puisque j'ai travaillé pratiquement toute l'histoire, j'ai vu que depuis le monde archaïque, depuis les mythes, il n'y a que de la violence.
Mmh. Déjà dans Homère, il y en a pas mal.
Homère, dans la Bible.
Ouais.
Bah, toute la Bible.
Dans la Bible, ouais.
Tout le temps. Et on ne parle dans les tragédies. Et puis peu à peu, bon, au Moyen-Âge, toute la littérature est liée à la violence. Et puis regardez le monde moderne. J'analyse par exemple « Guerre et paix » de Tolstoï. Bon. Et plein de livres de la violence. Et puis aujourd'hui, pour regarder, maintenant on est passé de la mythopoétique à la mythotechnique. On utilise la technique pour le cinéma, les jeux vidéo, tout ça.
Ah, justement, Juliette a une question à ce sujet.
Oui. Sur les jeux vidéo et sur la pornographie, vous dites que vous ne voulez pas aller contre la liberté d'expression, mais que pour autant la jeunesse a droit à une sexualité librement consentie et pas imposée par les lois de l'e-commerce. Parce que c'est vrai que même pour un mineur, c'est hyper facile grâce à Internet d'avoir accès à la pornographie la plus dure. Vous faites comment ? Alors, c'est quoi la solution s'il s'agit de parogner sur la liberté d'expression ?
C'est une bonne question parce que je crois à la liberté d'expression d'une façon absolue. Mais je considère que dans un monde techno-économique comme le nôtre, où la technique domine, on utilise tous le micro, les téléphones, tout ça, ce monde est extrêmement puissant et on passe tous par sa médiation. Et la commercialisation du monde est là, bon. C'est-à-dire que, le veut ou non, tout est commercialisé. Donc, à partir de ce moment-là, le problème, c'est cette commercialisation, qu'est-ce qu'elle apporte ? Or, justement, elle apporte pas seulement des choses positives, parce qu'un téléphone portable, c'est très positif, mais le téléphone pollue, et elle crée aussi des violences narratives. Les enfants commencent à s'identifier, donc il y a l'addiction. Et tous ces phénomènes montrent que la liberté, que je considère comme absolue au départ, se perd face à toutes ces choses. Et puis, en plus, ce qui nous perd notre liberté, c'est la pauvreté. c'est les maladies. Et c'est justement tous ces phénomènes de, avec le Covid, on a perdu beaucoup de nos libertés. Mmh. Et on est obligé de perdre cette liberté. Parce que je dis souvent, devant un pauvre, qu'est-ce que c'est encore d'avoir une liberté absolue? Mais non, on peut pas. On doit quelque part sacrifier sa liberté parce qu'il faut aider le pauvre. Et donc, ça veut dire que devant les malades, on peut pas non plus, on le voit ceux qui veulent pas faire le vaccin. Et ils se rendent pas compte que la souffrance de l'autre est importante aussi. Et donc, dans nos rapports humains, notre liberté se perd. Il faut la rétablir, il faut la regagner. Donc, on est toujours dans cette ambiguïté. Or, le phénomène de la violence, elle, actuellement, la violence narrative dans les réseaux, les jeux vidéo, tout ça, ça pose un problème au niveau de cette liberté d'expression. Et donc, la solution, c'est quoi, au fond? Il ne s'agit pas de censurer. Voilà. Je suis contre la censure, puisque je défends la liberté. Il s'agit d'apprendre aux gens d'avoir une distance.
Un esprit critique.
Voilà, de créer un esprit critique. Voilà, votre émission est une émission que j'ai déjà entendue. Bon, vous faites beaucoup d'humour. Mais on peut prendre ça négativement. On peut dire que vous êtes très violent dans votre discours. Hein.
C'est une violence narrative aussi. Puisqu'on veut inverser le pouvoir symboliquement.
Oui,
c'est
mais
normal.
C'est ça la clé. Parce que vous êtes dans une situation ambiguë. C'est-à-dire que certains peuvent se vexer.
Mm-hmm. Et oh, mon Dieu, oui.
Oh, il n'y a pas, là là, pas énormément.
Vous n'imaginez non, pas.
Le problème, c'est qu'on peut arriver aussi à l'acte de la violence physique. Hein. Il ne faut pas prendre
oui, mais on est, bon. Oui, oui, on est prêt d'accord. à la bagarre. Pas de problème.
Non, non, mais je termine un peu là-dessus. Cela, c'est important parce que, justement, les caricaturistes ont une ambiguïté. Parfois, il faut avoir l'obligation de réserve, ne pas tout dire. Mais parfois, le phénomène de la caricature, de l'humour, permet justement que les gens commencent à s'habituer à un esprit critique, de prendre les distances par rapport à la parole. Donc, ce n'est pas aussi négatif. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où une obligation de réserve est parfois nécessaire parce que sinon, l'acte de la violence peut arriver.
Et pour apaiser tout cela, la musique, bien sûr. Je vous propose Arnaud, Chic et pas cher, avec Lambros Koulibaritzis, philosophe.
Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu les popstars frustrés. La vie est belle. J'ai pris pas cher. Même quand tu dors, tout le monde cherche la vérité. Ils chantent les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher.
Écoutez pas. par Jupiter, France Inter, avec le philosophe et historien des philosophies Lambros Koulibaritzis, qui publie La violence narrative. Juliette, pour l'entourer.
Bah, des gens qui pensent, Aymeric Lomprey, Clara Dupont-Modo. Des gens qui pensent moins, Guillaume Meurice.
Des gens qui réfléchissent à l'actualité aussi.
Ah oui, oui.
Pas de problème, tout va bien sur France Inter. Bonjour France Inter. Non mais c'est formidable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vos impôts ! C'est vos impôts ! Ce sont des gens qui font de la propagande tous les matins avec votre argent, c'est ça France Inter !
Le journal de presque 17h17.
J'ai un nouvel ami, Guillaume Meurice. Il m'a envoyé son bouquin.
Vive le service public, vive France Inter.
Facilement achetable.
On commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera de start-up.
On parlera donc de métro, boulot, coco.
On parlera aussi de télévision.
Alors là, on fera que boulot. Coco.
Et on parlera d'Aymeric Lomprey.
Ah bah là, du coup, que Coco.
Non, c'est pas ça, va pas. Il y avait personne se drogue ici. Allez,
non, j'ai... Oui.
Non, mais non.
Mais bon. Je voulais dire coupe mulet. Ça, vous n'avez pas laissé terminer. Et on commence par la politique.
Oui, avec ce coup de théâtre, cette information incroyable, Christian Estrosi a annoncé qu'il soutiendrait Emmanuel Macron en 2022. Guillaume, vous réagissez pas. Qu'est-ce que vous en remettez pas qu'est-ce qui se passe?
Non, je me demandais est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de l'avis de Christian Estrosi. Et non, en fait, hein, ça me semblait bien.
Hein. Ben, politique toujours. Oui. Alors Christophe Castaner a affirmé qu'il fallait allonger les délais pour l'IVG et qu'il allait travailler une nouvelle proposition de loi dans ce sens.
C'est pas bien ce que vous faites, Charline.
Bah, quoi?
Vous m'obligez à dire du bien de Christophe Castaner et c'est contraire à ma religion. Vous le savez très bien.
Hier, Éric Zemmour était l'invité de Laurence Ferrari et la journaliste l'a interrogé sur un rapprochement avec le Rassemblement National. Et à l'attention, tendez bien l'oreille.
Ben, j'ai eu raison. Voilà, c'est tout. Mais si les fautes de temps en politique.
Certains cadres du Rassemblement National veulent venir vers nous, vous leur ouvrez les bras, j'imagine.
Tout est dans le nous, hein, veulent venir vers nous. Elle est tellement à l'aise avec Zemmour, elle s'est pas rendue compte qu'elle a été filmée, en fait, ça se trouve.
On reste sur CNews. Robert Ménard était ce matin chez Pascal Pro. Il a déclaré ceci.
France Inter, c'est ubuesque. France Inter, bon, tu y vas plus.
Vous êtes allé quand à France Inter la dernière fois?
Il y a 4 ans, j'ai dû être invité.
Ah bon?
4 ou 5 ans, depuis plus jamais. Pardon, attendez, je
fais mal. France Inter, Madame Veil.
Guillaume, ouais. Attendez, est-ce qu'on pourrait réécouter, s'il vous plaît, un extrait du 13h de France Inter qui date à peine du 13 septembre dernier, il n'y a même pas un mois.
Ouais. Mmh. Bonjour Robert Ménard.
Ah. Bonjour.
Vous êtes en direct de votre mairie de Béziers et tout de suite au standard, une question de Denis pour vous. Bonjour Denis.
Hey, bonjour, je m'appelle Denis. Je me demandais si Robert Ménard, il se fout pas un petit peu de la gueule du monde en fait.
Effectivement, si 3 semaines en temps ressenti pour Ménard, ça équivaut à 4-5 ans, pas étonnant qu'il se croit en 1933.
Oui, on enchaîne avec la santé.
Hier, la Haute Autorité de Santé a préconisé une 3e dose de vaccin pour les soignants et les proches de personnes immunodéprimées.
Et voilà, mais comme par hasard. Et voilà.
Quoi encore, quoi.
Ah non, rien, c'est un réflexe. Dès que vous dites vaccin, ça déclenche immédiatement. Comme par hasard. D'accord. Sur le pont, j'ai pas d'avis en fait.
Ça vous a pas réussi le Covid.
Bah, comme par hasard.
C'est bon, allez. Interviewée sur BFM TV, Sylvie Vartan a annoncé une nouvelle tournée en déclarant « J'ai envie de toucher les gens différemment ».
C'est beau, on dirait les promesses d'un prêtre après non, la sortie du rapport Sauvé.
Ce matin, la BPI France organisait la 7e édition du plus grand rassemblement business d'Europe et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État chargée de l'industrie, était présente à la cérémonie d'ouverture et elle a parlé de...
La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible.
Et oui, la magie de l'arthrose à 45 ans, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas
non,
de
c'est
prix.
Pas la magie, hein, c'était la magie. Hein.
Ah oui,
la
magie, pardon,
la punition.
Pardon, hein. Je suis désolé, on enchaîne.
Allez, selon une étude, un Français sur deux est gêné par le bruit au travail.
Ah oui, d'ailleurs, maintenant que vous le dites, je suis extrêmement embêté. Pendant que je travaille, il y a un bruit de fond constant. Voilà, si c'est extrêmement gênant. Il faudra régler ce problème. Allez.
Je sais merci, pas d'où ça vient. Guillaume Meurice. Lambros Koulibaritzis avec nous. Je peux y aller? On a accessoirement un invité qui est là. Donc, Lambros Koulibaritzis, philosophe. Et Juliette, vous avez un thème à lui proposer.
Imaginez, vous êtes une sage-femme et vous devez pendant votre garde de 12 heures pratiquer plus de 10 accouchements, souvent plus. Imaginez, ça c'est tous les jours. Oui, voilà, potentiellement vous feriez comme elle et vous seriez ce jeudi dans la rue pour manifester votre colère. On sait bien que dans sage-femme il y a le mot sage, sauf qu'en plus, une salle d'accouchement, c'est pas forcément le lieu du discernement et de la circonspection. Allez, on pose, on pose, on pose, on pose, on pose, on pose.
ça bosse encore. Oui, c'est bien, ça, madame.
Vas-y, bébé. Allez, lâche-toi, rien, t'es noir, rien. Recommence.
Monsieur, soit vous vous calmez, soit vous sortez.
Super, tu me donnes pas l'ordre. Allez, tout fermé. Et maintenant, tout fermé. Vas-y, vas-y, tu pousses.
Calmez-vous.
Oh, oh, oh.
Allez, bonjour, madame. Allez, voilà, t'es. Est-ce que vous voulez le sortir vous-même?
Non, mais je veux pas avec les doigts dans ma chatte.
Ah, je
vais regarder. Madame Lapierre, calmez-vous. C'est parfait, ça. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Allez-y, madame.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le film 2 et avec Marie-Lou Berry, Joséphine Sarandi, et donc avec Marie-Lou Berry et Mehdi Sadoun. On a choisi, oui, ce sujet pour vous, parce que dans votre livre, il y a un chapitre très intéressant sur la violence dans la naissance, qui est finalement le plus petit dénominateur commun à tous les êtres humains sur cette terre, c'est être né. Et dans l'article de Libération qui parle des sages-femmes, elles disent qu'elles courent partout pour combler les absences qu'elles donc finissent par prioriser, et prioriser, c'est parfois maltraiter.
Oui. Très bonne question. Non, mais il y a deux problèmes. Hein. Il y a d'abord, bon, la naissance, mais la naissance ne se fait pas toute seule. Il y a tout un milieu hospitalier autour, et de plus en plus performant, ce milieu. Mais c'est vrai que dans le milieu hospitalier, quand on parle de milieu hospitalier, et en général, l'imaginaire humain voit les médecins, parfois un peu les infirmières, et tous les autres sont oubliés. Bon, les sages-femmes, ça appartient à cette catégorie d'oubliés, qu'on le veut ou non, parce que finalement, elles s'occupent à un certain moment, c'est la naissance. Et les infirmières, c'est presque tous les jours. Mais les sages-femmes, c'est tous les jours, mais par répétition. Bon. Et manifestement, c'est un bel exemple d'une société qui a toute une partie de la population ouvrière ou bien des travailleurs, même intellectuels, qui les oublie. Parce que c'est vrai aussi pour les poètes, parfois pour les artistes, on les oublie. Et ça montre que, en fait, il faut se manifester un peu par la violence, voilà, dans les rues, ou par la violence narrative criée, pour qu'on commence à prendre conscience et qu'il y a un problème. Or, Sénèque, que j'admire beaucoup, a dit cette chose extraordinaire. Il dit, en réalité, au niveau de la reconnaissance, et il dit, quand on doit demander, dit-il, on doit baisser le regard, on doit se rabaisser, on doit s'humilier. Or, une société démocratique, je dirais, qui prend la dignité humaine comme mesure, devrait anticiper la demande. Ça, c'est un problème. On devrait anticiper la demande et pas que les gens, une fois qu'ils sont dans la précarité, commencent à demander. Parce qu'à ce moment-là, on les humilie deux fois, finalement. Et je crois que cette manifestation, symboliquement, elle est très importante. Maintenant, l'État probablement donnera une réponse minimaliste. Hein, mais c'est vrai pas seulement pour les sages-femmes. C'est un ensemble de métiers extrêmement pénibles. Moi, j'ai dit souvent... Et la Belgique a une valeur, c'est que souvent les salaires augmentent avec l'inflation. Mmh. Et moi, je dis, il faudrait aussi un système où non seulement les salaires augmentent avec l'inflation, mais que les salaires soient modulés en fonction de la pénibilité du travail. Mmh. Qu'ils soient augmentés par une différenciation de la pénibilité, parce que...
Et là, ça fait rire tout le monde.
Si,
parce que ça paraît tellement impossible, alors que c'est d'une évidence, mais voilà.
Non, mais c'est pas impossible, c'est-à-dire que on vient toujours avec le problème économique qui est vrai, bon. Mais il n'empêche que dans les programmations d'un État social et de liberté, et ces problèmes devaient être réfléchis. Bon, il s'agit de les débattre. Je ne dis pas qu'il faut prendre des décisions immédiatement, mais il faut qu'on s'habitue dans cela. On s'habitue. On ne s'habitue pas du tout.
Lambros Koulouvaritsis. Et alors, vous êtes arrivé en espèce de bleu de mécano aujourd'hui. Je ne sais pas quel mot vous allez.
C'est à moi.
Je sais pas, ouais, monter. Oui, c'est ça. En fait, je prends du temps pour vous préparer parce que vous n'étiez pas prêt du tout. Mais c'est à vous maintenant. C'est Aymeric Lomprey.
Bonjour à tous. Vous allez bien?
Oui,
j'ai rien entendu.
Oui,
Bon, moi, ça va moyen. Là. J'ai lu les commentaires sous ma dernière chronique. Alors, c'était nul à chier, pitoyable, suicide-toi, gros tas. On a ton adresse. C'est quoi son adresse? 18 boulevard Victor Hugo, Lille. On arrive, grosse baltringue, il est payé avec nos impôts. Ça m'a déprimé et après je me suis dit ouais, c'est bon ouais, ça va, et Macron aussi il est payé avec nos impôts, alors peut-être que je fais de la merde mais j'ai encore une bonne marge, hein. Donc de toute façon ceux qui mettent des commentaires, moi je me dis c'est ceux qui ont pas de vie, c'est genre des profs de techno ou des dames CDI, c'est, ils vont, non mais ils vont faire quoi, me planter avec des ciseaux à bourron, refuser de me prêter un livre. Là je m'en fous maintenant, moi j'ai décidé que j'allais faire comme les 10 millions de Français qui veulent pas se faire vacciner, mon ex et les riches, je vais penser qu'à ma gueule, voilà, c'est bon, c'est terminé, hein. Fini le Emmerich Gandhi là. C'est bon. Parce qu'on a vu là, on a vu avec les Pandora Papers que les riches, ils aiment bien penser qu'à leur gueule. Alors je sais que Guillaume, il en a parlé, mais une fois de plus, voilà, c'était brouillon, on m'a expliqué, et moyennement drôle. À revoir, comme sur ses acquis, 12 Guigui. Alors, donc les Pandora Papers, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plein de journalistes d'investigation, genre Léa Salamé. Non, je déconne. Non, Léa Salamé, elle a interviewé Macron sur France Inter mardi, elle a pas posé la question sur l'évasion fiscale. Elle était peut-être pas au courant, de toute façon, elle lit Astrapi. Donc et puis en même temps l'interview c'était pour la journée des femmes afghanes. Et heureusement qu'elle n'est pas tombée sur la journée des gros fils de pute. L'entretien il aurait duré toute la semaine. Tant pis, il y aura pas à faire sensible cette semaine sur France Inter. Alors, non, les Pandora Papers c'est des vrais journalistes impartiaux qui sont réunis. Alors attendez, j'ai rien contre Léa Salamé, hein, j'ai rien. Hein, mais c'est vrai que quand elle interview Carlos Ghosn ou Bernard Arnault, c'est pas la même que quand elle interview Mélenchon. Hein, tu sais, on dirait moi qui drague dans une boîte de luxe et moi qui drague dans la queue de Pôle Emploi. Puis-je vous offrir une coupe de champagne? Eh hey, salut, tu veux que je te mette un doigt avant que tu trouves un emploi? La chronique, il va te finir. Alors donc les journalistes, ils ont sorti une liste de responsables politiques, d'industriels, de millionnaires qui planquent leur argent dans les paradis fiscaux. Il y a même DSK, hein, il était quand même président du FMI le gars. Alors en gros, tous les gens qui peuvent lutter contre les paradis fiscaux planquent leur argent dans les paradis fiscaux. Hein, donc forcément, ils se donnent pas à fond dans le combat. Hein. C'est pas, c'est comme demander au Vatican de lutter contre la pédophilie. Hein, toi, ou alors c'est comme me demander d'être parrain de l'association Les Chlamydia. Très peu pour moi. Tu sais, je serais là. Oh, ça gratte. Les enfants, il faut se protéger. Ah, putain, mais ça gratte, c'est un enfer. Les enfants, il faut. Ah, putain, c'était il y a un mois, la fête de l'UMA. Pourquoi ça gratte que maintenant? Alors, avec tout l'argent qui n'est pas soumis à l'imposition dans le monde, ça représente quand même 11 300 milliards d'euros. 11 300 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 11 300 milliards. Mais dites-le moi si vous vous rendez compte, parce que moi, je ne me rends pas compte du tout. Tu sais, je sais pas, c'est quoi? C'est 1000 pins de très grande valeur. Non mais on sait pas. Alors du coup moi je me suis dit, ils vont peut-être faire quelque chose pour lutter contre l'évasion fiscale. Et ben ils l'ont fait, ils viennent d'enlever les Seychelles de la liste des paradis fiscaux. Hop, plus de problème. Et en fait je pourrais être parrain de l'asso, hein. Il suffit juste de dire les chlamydia, c'est plus les MST. C'est bon, ça gratte plus. Non mais tout le monde s'en branle de l'évasion fiscale. J'ai regardé le JT de TF1 lundi soir. Ils ont parlé inondation, rentrée scolaire et comment moins se chauffer avec l'augmentation de l'électricité. Alors au JT ils te donnent pas des solutions pour lutter contre l'augmentation du prix d'électricité. Ils te disent, bah, acheter une couverture en plus. Et à mon avis, Gilles Boulot, si tu tires très fort sur le menton, c'est Léa Salamé en dessous. Et, alors, c'est peut-être parce que 11 300 milliards, c'est trop. Hein. Du coup, on s'en rend pas compte. C'est plus facile de parler de Daniel qui fraude la Sécu, parce que c'est plus proche de nous. Hein. On arrive à s'identifier. Macron, il est là, ouais, on a plus d'argent, il faut réformer le système de retraite et l'assurance chômage. Bah, si, on a de l'argent, c'est juste que les riches, ils payent pas leurs impôts. Ta gueule ou je réforme l'assurance maladie. Ok, monsieur le président. Merci de m'avoir écouté.
Émeric Lompré, merci. Bel exemple de violence narrative. Mais violence symbolique, toutefois, bien sûr. Merci beaucoup, Émeric. Vous jouez tous les mercredis à l'Européen, je le rappelle. Bien sûr, si on veut venir vous péter les dents à la fin. Sin joy y pan tu pecrín. compagnie sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, notre invité Lambros Koulibaritzis, philosophe et donc intellectuel. Lambros, c'est le sujet, je pense, de Guillaume aujourd'hui.
Oui, parce que vous êtes bien sympa, Lambros, mais bon, philosophe belgo-grec. Non. Déjà, non. La philosophie, c'est français. On le sait, c'est français. Juliette, on en parlait l'autre jour parce qu'elle est spécialiste de la taverne de Platon. Voilà. On a toujours eu des grands intellectuels. Sartre, Beauvoir, Camus, jusqu'à Émeric Lompré aussi, on peut en parler, qui est considéré comme un intellectuel dans sa région. Bon, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Ça relativise un petit peu. C'est comme gagner au Chifoumi contre Philippe Croizon. Mais quand même, votre thèse, Phénoménologie critique de la place de la raclette dans la pensée marxiste, est une œuvre majeure dans le monde de la philosophie et du cholestérol. Et puis, on le voit un petit peu partout en ce moment, sur les plateaux de télévision, les intellectuels sont partout pour parler de la place de l'islam dans les quartiers populaires, à l'école, dans le sport, ou de la place de l'islam dans la recette de la brandade de morue, ou de la place de l'islam dans la discographie de Sheila. Vous voyez, les sujets sont très très variés en ce moment, et le peuple de France aime ces intellectuels. Je sais, je suis allé ce matin à sa rencontre pour connaître ses préférences.
Onfray, Michel Onfray.
Qu'est-ce que vous aimez dans sa philosophie, dans ses concepts, dans ses pensées?
Sa diversité.
Ouais.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'avis?
Je ne dirais pas qu'il a beaucoup d'avis, je dirais qu'il parle d'un certain nombre de choses, oui.
Et quelle est sa position qui vous plaît le plus?
Ben, sa position... Je saurais pas te dire.
Pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a de la diversité. Il y a de la diversité. Onfray, il a monté l'université populaire pour lutter contre Le Pen. Aujourd'hui, il fait des massages du périnée à Zemmour. Donc, on est vraiment face à une pensée complexe. Moi, je suis trop con pour comprendre. Hein, je vous le dis tout de suite. Faut être vraiment humble devant les intellectuels français. Il y en a plein des formidables.
Finkielkraut, c'est quelqu'un qui ne renie pas ses positions, ses engagements. Enfin, c'est quelqu'un qui va.
Ah, il était maoïste hein, quand même au départ.
Oui, oui, c'est vrai. Bon, il s'est un peu droitisé, c'est vrai.
Il a peut-être un peu renié.
Oui, c'est vrai.
Voilà, oui, oui. Mais bon, Finkielkraut, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Bon, il change souvent de marque de bottes. Voilà, hein, voilà. Le mec est passé de la gauche de Staline à la droite de Macron. Il nous a fait ce qu'on appelle une conne bendite, hein, le célèbre pédiatre français. Donc bon, non, mais c'est de la souplesse. Voilà, les intellectuels français, ils devraient faire de la GRS. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme livre de Finkielkraut?
C'est compliqué. Hein. Non, j'ai pas de livre en tête comme ça. J'ai plus des articles, des positions, mais voilà.
Bon. Alors, quelle position de Finkielkraut vous plaît le plus?
Non, mais sur l'islam.
Ah, voilà. Il y a quand même un moment où je me demande s'il n'y avait pas de musulmans dans le pays, ils parleraient de quoi, les gars, en fait? Franchement, je serais eux, je remercierais Allah tous les jours sans les musulmans. Ces gens n'existent pas. On dirait moi avec les gens qui regardent ces news. Moi, je dis merci Bolloré. Vive Bolloré, merci pour tout ce que tu fais pour mes chroniques. Allez, on continue avec les philosophes français qui pèsent.
Puis Einthoven. Bon, Einthoven, il est effectivement très, très clair, très bon.
Et qu'est-ce que vous aimez bien dans sa pensée?
Bah, je trouve qu'il est très, très clair, très... Bon, il a des idées sur tout. Bon, après, voilà. Mais,
Et quelle est l'idée de lui qui vous plaît le plus?
Je sais pas si c'est quelqu'un qui a une idée en particulière par rapport à d'autres.
Non, je sais pas non plus. Bon, attention, moi je suis vraiment con, hein, donc c'est pour ça que je pose les questions. Hein. Quand Einthoven il dit qu'il veut faire barrage à l'extrême droite en votant Le Pen contre Mélenchon, moi je pige pas parce que je suis con, je suis pas philosophe, j'ai pas le CAP dédiabolisation, ça c'est vraiment un truc d'expert. Et puisqu'on parle d'expert.
J'aime bien chez Alain Minc.
Qu'est-ce que vous aimez chez Alain Minc?
J'aime bien la finesse de l'analyse, j'aime bien la hauteur de vue, j'aime bien.
Et concrètement, est-ce qu'il y a une pensée ou un concept que vous retenez de lui?
Non, il n'y a rien.
Oui, alors là, je suis d'accord. Là, j'aurais pu répondre à ma propre question. Il n'y a rien, à part peut-être l'art du copier-coller, comme vous lui avez rappelé il y a quelques jours dans la matinale, Charline. Le gars est fort en plagiat. Hein, on peut dire, non, mais il faut bien être fort dans un domaine. Hein. Minc, c'est le copier-coller. Gad Elmaleh, c'est la traduction. Ouais, c'est chacun son truc. Et Alain Minc, c'est même plus quoi?
C'est plus une attitude qu'un concept. C'est plus une... Dans son domaine, j'apprécie que ce soit un type qui... Pareil, il y a une bonne analyse de tous les flux économiques, de la manière dont ça se passe dans le monde.
À la main qu'il avait dit juste avant 2008, il n'y aura pas de crise mondiale.
Oui, la prévision en politique et en économie, bonjour.
Voilà, bonjour à Alain Minc qui n'avait rien vu venir. Alain Mince, on aurait pu l'appeler Voilà, alors moi je vais vous donner un vrai conseil pour une fois, une chaîne YouTube d'un prof de philo qui s'appelle Monsieur Phi. Voilà, si vous n'avez pas peur de devenir moins con. Sinon, vous avez juste à allumer la télé et puis continuer à regarder tous ces gens qui ont oublié que la seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ne savent rien.
Merci Guillaume Meurice, et voilà le résultat de l'intellectualisme français médiatique implacable. Et hauteur de vue d'Alain Minc, c'est pas très gentil. Hein.
Oui, là, je voulais pas aller sur le physique.
Et là, on dit souvent, si j'ai pu voir plus loin, c'est parce que je suis montée sur les épaules d'Alain Minc. Allez, Lambros Koulibaritis avec nous, philosophe grec et belge. La France et la Grèce sont devenus les meilleurs amis du monde. La France défend la Grèce face aux menaces de la Turquie en lui vendant des rafales, des frégates et autres jouets mortifères et en consacrant une exposition aussi sur la Grèce au musée du Louvre. Je pense que vous y êtes allé, Lambros. Préparer la guerre, tout un art. Petit aperçu des délicatesses entre la Grèce armée par la France et la Turquie armée par les Russes.
Alors allez-y, faites passer votre TT à 31, qu'on rigole un peu.
Écoutez,
allez-y.
C'est simple, c'est allez-y, très facile, allez-y. Voilà.
Eh non, t'as pas le droit, là-haut. Quoi? De toute façon, moi j'ai les M66 BV12, de toute façon ils t'ont repéré. Comme
mais
ça.
Les BV12, ils t'ont repéré, bah, admettons qu'ils me repèrent, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais moi j'ai des croisières.
Mais non, c'est à moi, ça. Eh, c'est à moi, ça.
C'est pas à toi, ça.
Si, c'est à moi.
J'ai des renforts, de toute façon, qui débarquent.
Moi, de toute façon, moi j'ai les Tomahawk. Comme Tomahawk. Ils te cassent pas, ça.
Mais moi j'ai des missiles BV12, là,
les BV12, comme ça,
ils te détruisent, là.
Ça
t'est arrivé, voilà, non mais ça c'est... C'est lui qui a commencé.
Attendez, on se calme,
C'est lui qui a commencé.
Non, s'il vous plaît, on se calme.
C'était les inconnus, bien sûr. Alors, Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Mitsotakis ont signé un pacte de défense mutuelle. Lambros Koulibaritis, vous qui étudiez depuis 15 ans la violence narrative, ici la Grèce est en train de s'armer grâce à la France. Elle est amie de la France parce que... Quoi? Parce que la Turquie use d'une violence du discours? On est en plein de votre sujet, là?
Oui, tout à fait. Bon. Mais ce n'est pas le seul problème. Hein. J'ai dit effectivement, le discours quotidien des Turcs, parce que moi, j'écoute un peu les nouvelles en Grèce, tous les jours, le gouvernement turc, Erdogan, ses ministres, il y a toute une campagne qui crée peu à peu, prépare par une violence contre la France aussi et contre la Grèce, qui prépare pratiquement la population contre quelqu'un. C'est comme ça que les génocides se sont passés dans le temps, hein, contre les Arméniens et les Grecs. C'est comme ça qu'au Rwanda, c'est-à-dire, au Rwanda, c'est le radio de 10 collines.
Des 1000 collines, oui.
De 1000 collines. Donc, on voit que cette violence narrative peut mettre à disposition un peuple, s'il y a un incident, pour qu'il puisse agir. Bon. Et on a l'impression que cela devient une habitude. C'est un problème. Parce que ça veut dire que plus on crée une violence narrative au niveau politique, plus on se prépare pour les guerres. Or, c'est inutile. La Grèce n'avait pas besoin d'aller acheter à la France 10 milliards d'euros d'armement. Mais la Turquie la met en situation et veut recréer l'empire néo-ottoman. C'est un système de califat. Et la religion est très importante. Et la situation économique dans la Turquie va très mal. Donc, il faut extérioriser le discours. Mais il y a l'autre problème. C'est le camouflet que la France a eu. Et par rapport aux anglo-saxons.
Ah oui, avec l'Australie et les sous-marins. Voilà. Ça a créé une souffrance morale, ça, chez les Français?
À mon avis, profonde. Tout à fait, parce que bon, c'est la perte de confiance. Bon, la souffrance morale, c'est la perte de confiance à la base. C'est le sentiment d'injustice. En fait, le fond de la souffrance morale, c'est le sentiment d'injustice. C'est là, on l'a tous dans le rapport humain. Si quelqu'un se dispute un peu, j'ai l'impression qu'il est injuste à mon égard. Donc ce sentiment d'injustice, c'est parce que la confiance entre l'Australie et la France est perdue d'un seul coup, et pour des raisons que je ne viens pas ici dans les détails, mais le fond, c'est que le nouveau problème qui se pose, c'est la Chine, et l'Australie est plus près de la Chine. L'armée française dans l'océan Pacifique Indo, elle existe, bien sûr, parce que là, il y a les anciennes colonies qui sont des parties du territoire français, mais la France n'est pas capable d'avoir une alliance de réciprocité militaire.
Mais la France ne va pas entrer en guerre avec l'Australie, quand même.
Non, pas avec l'Australie. Mais si l'Australie est attaquée par la Chine, la France n'aurait rien fait. Mm-hmm. Mais les Américains vont le faire, et les Anglais aussi. Et c'est ça qui s'est passé. Mais il ne faut pas oublier que c'est un accord de milliards d'achat d'armement français.
Il y a 10 milliards, là, c'est ça, hein?
Non, 10 milliards, c'est les Grecs.
Ah, c'est les Grecs.
Oui, eux, c'est plus.
Oui,
c'est plus qu'il paraît 30 à 50 milliards. Je ne connais pas le chiffre exact.
Et quand on mélange violence narrative et les sous, ça, c'est
terrible.
C'est le cocktail.
C'est terrible. Et la France, finalement, je crois que la Grèce a profité un peu de cette situation, parce que la Grèce se trouvant dans une situation difficile. Et elle a profité du fait que la France est le seul pays d'Europe qui a soutenu la Grèce dans tous ses problèmes avec la Turquie. Le problème, c'est pour ça que je dis, c'est très complexe. C'est que cette position entre la Grèce et la France, c'est un coup de force dans les accords de l'OTAN. Mm-hmm. Dans l'OTAN, on ne peut pas faire des alliances internes contre un allié.
Mais c'est peut-être un début de défense européenne, la France.
En tout cas, c'est ce qu'ils cherchent à dire. Mais on a des réactions actuellement de beaucoup d'Européens contre cette alliance européenne. Pourquoi ? Mm-hmm. Parce que une alliance militaire européenne, ça veut dire qu'il faut se réarmer. Beaucoup de pays ne veulent pas dépenser un sou. Ils préfèrent l'OTAN. Mm-hmm. Donc c'est très complexe, mais je dirais que là, effectivement, il y a eu une violence narrative contre la France, et la réponse, c'est venue l'alliance avec la Grèce.
Lambros Koulibaritis et Clara Dupont-Monod.
Oui.
Nous sommes jeudi, c'est l'heure absolument. De votre chronique littéraire.
Mais oui, cher professeur, je peux vous appeler professeur.
Mais Lambros aussi.
oui, mais professeur, c'est un vieux fantasme.
Oui, c'est vrai.
Laissez Lambros tranquille, faites votre chronique.
Professeur Lambros. Alors, avez-vous remarqué, professeur Lambros, combien la postérité d'une œuvre n'est pas toujours indexée à sa qualité ? Nombre d'écrivains ont été écartés par l'histoire littéraire alors que leur personnalité méritait peut-être qu'on s'y attarde un peu. Et c'est aussi une forme de violence finalement, pas littéraire mais mémorielle, être rayé. Eh bien figurez-vous qu'une femme prénommée Suzy Solidor appartient à ce club des exclus de la postérité. Alors Suzy Solidor, ce nom hélas ne dit rien à personne et pourtant... Nous sommes en 1940, la France est en train de plier et soudain surgit un livre nommé Fil d'or, un livre très rythmé, étrange, très bien construit, qui démarre sur une conversation entre deux légionnaires qui discutent dans le Sahara. Et ils parlent notamment de Fil d'or, qui est un capitaine de bateau très doué, qui est blond et fluet. L'auteur de ce livre, donc, c'est Suzy Solidor. Elle est née à Saint-Malo, elle est donc l'écrivain d'un lieu, de la mer, bien sûr, mais c'est aussi l'écrivain du scandale, puisque Suzy Solidor est l'incarnation de la garçonne des années folles. À l'époque, elle possède un cabaret qui s'appelle La Vie parisienne et qui accueille volontiers les nazis. Ça, c'est pas grave. Elle chante et alors la température monte d'un cran. Un critique de l'époque dira, je cite, « sa voix part du sexe ». Elle est homosexuelle, elle fait tourner la tête de toutes les mondaines de Paris. Parfois, elle picore un peu chez les hommes. L'aviateur Jean Mermoz en était dingue. Les peintres aussi. Il existe aujourd'hui 200 portraits de Suzy Solidor. Et puis alors, signé Picabia, Man Ray, Dufy, Vlaminck et j'en passe. Et son livre, Fil d'or, est aujourd'hui réédité. En fait, il le sera dans une semaine, jeudi prochain, à nouveau en librairie. Ce n'est pas un hasard. Fil d'or en question, le fameux capitaine de bateau, il joue l'ambiguïté homme-femme. On ne sait pas qui il, elle est et il faudra attendre une bagarre lors d'une tempête sur le pont d'un bateau pour que sa chemise se déchire et que son secret soit révélé. Ce n'est pas cette question sexuée, finalement, le cœur de Fil d'or. Le cœur du livre, c'est l'amitié entre deux soldats, ces deux fameux légionnaires, qui va perdurer bien au-delà de la mort d'un des deux. Et cette amitié, elle se déploie uniquement entre le désert et l'océan, entre le Sahara et la Bretagne. Solidor dit « deux champs qui ne fleurissent jamais ». L'âpreté sauvage de ces régions ressemble à ces hommes, ces soldats, et je trouve très intéressant que ce soit une femme, en fait, qui ait si bien décrit le lien masculin. Suzy Solidor décrit superbement le monde des marins, le monde des soldats, pas proprement parler des milieux non mixtes. Elle raconte les armes, un équipage, les ordres, un bateau, les manœuvres, les barres, mais aussi le rapport au courage, à l'autorité, au serment. En fait, elle raconte toute la panoplie d'une certaine condition masculine du XXe siècle. Et donc, en fait, ce qu'elle nous dit en creux, c'est que la virilité, c'est une affaire de femme. Et c'était vraiment impossible de penser à l'époque que ce livre était écrit par une femme, quand on le relit aujourd'hui. D'où le scandale et la fascination pour Suzy Solidor. D'où peut-être aussi le fait qu'elle ait échappé à l'épuration, elle a eu un blâme, et elle a pu ouvrir un nouveau cabaret en 1954 qu'adoraient fréquenter Léo Ferré et Georges Brassens. Mmh. Elle est morte en 1983, laissant derrière elle cet engagement plutôt indigeste, du panache, et ce livre Fil d'or, donc je vous redonne les références, de Suzy Solidor, reparu chez Séguier en librairie jeudi prochain.
Oh, merci Clara Dupont-Monod, quelle bonne idée. On peut vous réécouter en podcast si vous avez pris cette chronique de Clara en cours de route. Lambros, il y a un match de foot toute France-Belgique ce soir. Les deux équipes ne s'étaient plus croisées depuis cette scandaleuse demi-finale de la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent les Diables Rouges en demi-finale de la Ligue des Nations. C'est donc le match retour du seum contre l'arrogance. Lambros Koulibaritis, le sport est un thème que vous étudiez beaucoup, y compris dans... C'est une forme de violence narrative, dites-vous. Et vous, est-ce que vous sentez depuis cette demi-finale de Coupe du Monde que la rivalité entre les équipes de France et de Belgique, elle a changé? Avant, c'était un peu bon enfant, on se chambrait. Depuis cet épisode, il y a quand même une sorte de montée de tension, non?
Non, il ne faut pas exagérer.
Oui. C'est pas mon genre.
Non, mais disons, ce qui est vrai, que le sport est un phénomène, on ne fait pas très attention. Mais en réalité, le sport a été l'origine véritablement du problème de la maîtrise de la violence physique. C'est dans l'Antiquité, on faisait des guerres tout le temps, et les Grecs ont inventé les sports, donc c'est les Jeux panhelléniques, dans des trèfles, pour arrêter la violence.
Pour la
physique,
canaliser.
Pour arrêter la canaliser. Les guerres, le mot grec, c'est le même. C'est, on passe de la compétition à l'émulation. Donc, l'émulation sportive, c'est une réponse pour sortir de la violence physique. Donc,
mais le si sport, c'est capital. Si je peux me permettre, oui, professeur, au Moyen-Âge, il était interdit, à la fin des tournois, de tuer son adversaire. C'était exactement le même principe. Il fallait canaliser la violence plutôt que de l'ignorer.
Voilà.
Et donc, au moins, elle était en main.
Oui, l'émulation, donc.
Mais chez les Grecs, c'était, on tuait pas les adversaires, hein, c'était pareil, ouvert. Donc, le sport est capital. Mais malheureusement, c'est un système où on confond compétition et émulation. Et donc, s'il y a maintenant un conflit, et les journalistes sont capables de mettre tout ce conflit en évidence, hein, en disant les Belges et les Français... Ah,
c'est eux qui nous montrent les uns contre les autres.
Non, c'est parce que c'est pas les journalistes seulement, c'est certaines personnes en pensant le sport comme compétition.
Vous dites ça parce que vous avez perdu.
mais alors l'émulation, Lambros.
Non, mais justement, l'émulation, c'est quoi? La compétition, c'est négatif. L'émulation, c'est qu'une perte n'est pas... est quelque chose d'humiliant. Et parce que, de toute façon, on va en avoir. Le fait de perdre dans le sport, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut un vainqueur, de toute façon. Le problème, c'est quand le sport est lié à l'économie, voilà, parce que maintenant, c'est pas seulement ça. En Belgique, il y a tout des scandales dans le football. Ça, c'est plus grave. Et la seconde chose qui est plus grave, c'est le nationalisme, justement. Dire la France, la Belgique.
Ah, bah oui, voilà. Ah oui, mais là, allez, les Bleus et les Diables Rouges. Mais allez, les Diables Rouges, surtout. Voilà. Lambros, Juliette Arnaud a un questionnaire de Parjupi Proust pour vous. Attention, ça va être très difficile, car ce sont des réponses courtes. Oui. Parfois des questions longues, non?
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, du métier qui inspire le plus de respect, 10 étant pompier et 0 étant huissier de justice ou dog-sitter ou fondeur de porc, à combien situez-vous celui de professeur de philosophie?
À 0.
Oh, comme huissier.
Mais oui, comme huissier, parce que le professeur de philosophie doit écouter surtout.
Ok. Ah. Bon. Qu'est-ce qui est le plus violent dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère? Est-ce que c'est la colère d'Achille? Est-ce que c'est Ulysse qui tue toutes les servantes quand il revient à la maison? Ou est-ce que c'est Hélène qui préfère un type jeune et bien gaulé à son vieux mâle blanc d'homme de pouvoir de mari?
Mais Hélène est pratiquement inexistante dans Homère. C'est plutôt le cinéma qui la met en évidence. Et en réalité, c'est le conflit entre Agamemnon et Achille. C'est la violence narrative, là. Ils se disputent.
Ok, donc c'est la colère d'Achille le plus violent.
C'est la colère.
Très bien. Vous êtes d'origine grecque, vous êtes né au Congo, vous êtes de nationalité belge et là vous êtes à France Inter. Vous préférez qu'on débatte de l'identité nationale ou de votre bilan carbone?
Ni de l'un, ni de l'autre.
Pour quelle violence narrative avez-vous un brin d'affection?
Ça, c'est une très belle question. Et j'en ai beaucoup. Et c'est difficile à dire, mais une seule. Et c'est peut-être... Et quand on veut se disputer avec quelqu'un, minimiser la faute de l'autre.
Ah, ok, j'essaierai de faire ça. C'est pas gagné. Pour quelle violence narrative n'avez-vous pas du tout d'indulgence?
Ah, c'est quand dans les familles, dans les assemblées, les gens se disputent pour rien. Et c'est, en général, c'est des disputes pour rien.
Oui, c'est vrai. Quel film contient une violence narrative qu'il vaut mieux éviter aux enfants? Est-ce que c'est Platoon ou est-ce que c'est Bambi avec sa mère assassinée et son père éducateur défaillant?
Mais bon, je dirais qu'il ne faut pas éviter Bambi, mais il faut faire en sorte que l'enfant comprenne et que cette violence interne, et il doit prendre des distances. Et Platoon, c'est très violent.
Petite dernière.
Vous avez été le prof de philo de Charline. C'est le moment de prendre vos responsabilités. Est-ce que c'est vous qui lui avez appris à mettre les réponses dans les questions? Si c'est vous, il faut le dire maintenant.
Non, mais elle est en train de m'apprendre, celle-là, je ne le savais pas.
Il a été le professeur d'Alex Vizorek aussi, hein, je tiens à le signaler, à l'Université libre de Bruxelles. Parmi 30 000 étudiants auxquels vous avez dispensé vos cours de philosophie, Lambros Koulibaritzis, merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle votre ouvrage qui s'intitule « La violence narrative » paru aux éditions Ouzia. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, tout à fait.
Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci les amis. Et je vous dis à demain. Nous n'aurons pas d'invité. Mais je vous rappelle, ce soir, il y a match. France, allez la Belgique !
Attendez, c'est moi le vaincu là ?
Oui.
Moi, j'ai été vaincu ?
Oui.
Bah oui, bon, bah oui.